Les parts actualités. Bonjour mes amis, comment allez-vous? Nous sommes le 26 octobre 2016 et ce sont les paractualités du jour avec en titre aujourd'hui ceci, dénoncer la violence envers les femmes ayant une déficience intellectuelle. Les dangers de la centralisation, les laboratoires uniques de l'hôpital Sainte-Justine sont menacés, plaident ces médecins. Également, je vais m'entretenir avec une intervenante à l'ALPA, l'Association Lavalloise des Personnes Aidantes, au sujet du premier salon des proches aidants de Laval. Et puis, cinq choses que les parents d'enfants ayant une déficience intellectuelle entendent le plus souvent. Aussi, au programme aujourd'hui, le logement sécuritaire est un droit humain. Tenez compte des femmes et des filles, c'est un cri d'alarme que lance YWCA, comme on dit dans ces cas-là, je ne sais plus comment on dit ça, vous me le direz, mon ami Canada. Et puis, Halloween, tiens, pourquoi pas transformer le fauteuil roulant de son enfant pour la circonstance. Également, en entrevue aujourd'hui, Sarah Rouleau, consultante en communication et philanthropie pour l'Institut national canadien pour les aveugles, autrement dit l'INCA, au sujet du lancement du nouvel afficheur en braille Orbit, disponible maintenant à la boutique de l'INCA. Alors, dénoncer la violence envers les femmes ayant une déficience intellectuelle. 4 femmes sur 5 qui vivent avec une déficience intellectuelle connaîtront dans leur vie une situation de violence ou d'abus sexuel. C'est la statistique préoccupante que relève l'Association du Québec pour l'intégration sociale, qui organise la journée de sensibilisation intitulée « Quand je ne veux pas, je dis non ». Une activité pour dénoncer la violence envers les femmes ayant une déficience intellectuelle se tient vendredi au Centre des congrès de Rimouski. Pendant cette journée, différents intervenants prendront la parole pour trouver des pistes de solutions pour contrer la violence. L'activité qui rassemble l'Association pour la déficience intellectuelle de Rimouski, des parents, des éducateurs, des organismes ainsi que des personnes atteintes de déficience intellectuelle vise à mieux outiller ces personnes pour dénoncer et intervenir en cas d'abus. Pour la directrice générale de l'Association du Québec pour l'intégration sociale, Annick Larose, il est essentiel de soulever le voile sur la violence faite aux personnes plus vulnérables. Elle ajoute que le moment est très propice puisque le sujet est soulevé dans l'actualité. C'est un sujet qui est extrêmement tabou, même au niveau des associations et au niveau des familles, naturellement. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup et c'est une violence qui est un peu insidieuse. Les personnes qui ont une déficience intellectuelle ont quand même un bon niveau de vulnérabilité, explique-t-elle. Les dangers de la centralisation, les laboratoires uniques de l'hôpital Sainte-Justine sont menacés, plaident ces médecins. Les laboratoires de Sainte-Justine sont un exemple de précision et de rapidité. Les médecins de l'hôpital pour enfants ont peur que les bénéfices de la recherche pâtissent du transport et des manipulations engendrées par le projet OptiLab. Les médecins du centre hospitalier universitaire Sainte-Justine sonnaient l'alarme il y a peu de temps. Ils assimilent la centralisation des laboratoires nommés OptiLab qui enverra des prélèvements des jeunes patients au CHUM. Un démantèlement. Les conséquences seront potentiellement graves pour les patients, disent-ils. À leur invitation, le devoir a pu se glisser dans les coulisses de l'hôpital, des couloirs que les patients ne fréquentent pas, mais où souvent des vies se jouent. Par exemple, une porte verrouillée marque la limite entre le grouillant hôpital pour enfants et le calme relatif de ces laboratoires. Et c'est là que le docteur Christian Renaud accueille Le Devoir, le journal Le Devoir. Le microbiologiste infectiologue résume son inquiétude en quelques mots. On nous parle de réduire de 60% les effets des laboratoires, mais on ne sait rien. Leucémie, lymphome, grève de moelle osseuse, de foie, de cœur, des cas de VIH, de grande prématurité, de tuberculose. Autant d'enfants qui, ce jour-là, sont victimes d'une infection à un des étages. Ce n'est pas des blagues quand on dit qu'on soigne les enfants les plus malades du Québec, s'indigne le docteur Renaud. Un hémato-oncologue, le docteur Yves Pastoré, termine une consultation. Il a admis un enfant aux soins intensifs, leucémie. Ça prend un pronostic rapide. On ne peut pas envoyer un tube comme ça sur la route et attendre 2 jours, s'exclame-t-il en parlant d'OptiLab. On a fait entrer une technicienne d'urgence la fin de semaine. Si c'est un type particulier de leucémie, le traitement est totalement différent. Selon lui, on peut perdre un enfant très rapidement tant certaines maladies sont fulgurantes. La chef du service de pathologie, la docteure Dorothée Dal-Solio, ne peut pas croire que des échantillons aussi cruciaux seraient envoyés sur la route. C'est vrai que certaines analyses peuvent attendre, mais pas celle d'un enfant greffé, par exemple, qui peut perdre son foie. Elle s'appelle Nancy Goulet, elle est intervenante à l'ALPA, autrement dit à l'Association Lavalloise des Personnes Aidantes, et elle est également coordonnatrice du premier salon des proches aidants de Laval. Bonjour Madame Goulet.
Bonjour à vous, ça va bien?
Ça va très très bien. Dites-moi, quelle bonne idée que ce premier salon des proches aidants à Laval.
Mais merci beaucoup. C'est sûr que c'est tout un comité organisateur qui travaille pour ce premier salon.
Oui, et c'était important, hein. Vous vous êtes sûrement posé la question, comment ça se fait que ça n'existe pas, pourquoi ça n'existe pas et pourquoi ça devrait exister? Et quelles ont été vos réponses?
Et voilà. Alors, le Salon des proches aidants a été pensé à réponse à un appel de projet de l'Appui Laval. Mm-hmm. Et c'est sûr que ce salon-là a été fait dans le cadre de la Semaine nationale des proches aidants. Alors, c'est une journée reconnaissance pour eux. Mm-hmm. Ils ne sont plus ou moins reconnus et ont de la difficulté à se reconnaître eux-mêmes. Alors, notre organisme s'est associé à l'UMIVIE, à Société Alzheimer Laval, oui, et aux services sociaux helléniques, ainsi qu'à notre entreprise Dame de compagnie pour pouvoir faire toutes les démarches nécessaires à la création du premier salon.
Et ce qui aura lieu quand, alors, et où? Disons ça tout de suite.
Oui, alors, on invite la population lavalloise et les environs à se présenter au centre de congrès Le Palace, mm-hmm, le lundi le 7 novembre prochain, au 17 boulevard Le Corbusier à Laval, à compter de 9h le matin.
D'accord. Alors, je vois ici, ça va être gratuit pour les aidants, hein?
Oui, effectivement. Voilà. Et c'est 5 $ pour la clientèle régulière. Par contre, ils doivent absolument communiquer avec moi
pour
afin que je les inscrive et que je prépare tous les coupons nécessaires aux conférences et pour le repas.
D'accord. Alors, ce qu'on va faire, Mme Goulet, c'est qu'on peut déjà donner votre numéro, mais on ne le donnera pas deux fois. On va l'indiquer sur notre site Internet, sous la rubrique « Par actualité » pour que les gens puissent prendre le temps d'aller découvrir d'une part notre site Internet, mais aussi votre numéro de téléphone. Alors, Nancy Goulet, donc votre numéro, c'est le...
Alors, on compose le 450-686-2572 et vous faites le poste 2.
Le poste 2,
oui.
OK. Alors, je répète ça, 450-686-2572 et le poste 2. Madame Goulet, de quoi ont-ils le plus besoin, les proches aidants?
Les proches aidants ont surtout besoin de temps. Ça fait drôle à dire, mais c'est quelque chose qui leur manque beaucoup.
Oui.
Ils ont besoin de soutien, de répit et d'informations. Surtout d'informations également, je vous dirais, afin de se reconnaître premièrement comme proche aidant, puis de pouvoir demander de l'aide au début du processus, avant l'épuisement.
Mm-hmm.
Parce que la plupart des gens, selon mon expertise, nous arrivent complètement épuisés. Puis c'est vraiment ça. Il manque d'informations et de reconnaissance, puis afin d'offrir quelque chose en amont de l'épuisement.
En effet.
Oui.
Et les objectifs, alors, de ce salon?
Bien, le premier salon,
c'est
ça, il a été fait dans le but, justement, de faire connaître les ressources disponibles pour les aidants sur le territoire de Laval, afin qu'ils sauvent du temps et afin qu'ils puissent aussi avoir accès à une foule d'informations et de services sous un même toit.
Oui, d'accord.
Faire plein de démarches et qu'ils puissent également être aiguillés sur les démarches à faire. Mmh. Fait que ça se veut un lieu d'information, d'échange, de rencontre. C'est vraiment une journée de reconnaissance pour eux.
Oui. Ça va se dérouler comment? Il va y avoir donc des conférences, des ateliers, des...
Oui, effectivement, l'accueil, elle se fait à 9h le matin.
D'accord.
Ensuite, la ministre Francine Charbonneau a accepté de venir faire une allocution aux alentours de 9h30.
Mm-hmm.
Par la suite, on a notre première conférence de maître Daniel Chalifoux.
Oui.
Alors, cette conférence-là va venir nous en apprendre un petit peu plus sur les dispositions légales relatives aux directives médicales anticipées, les formalités et la réglementation qui y sont reliées. Par exemple, le contenu du nouveau formulaire gouvernemental, son oui. enregistrement dans un registre de la Régie de l'assurance maladie du Québec, qui est tout nouvellement en fonction. Alors, ça va venir nous en apprendre davantage sur ce sujet-là. Par la suite, nous avons, bien sûr, le dîner. Il y a toujours la visite des kiosques qui va se faire là,
oui,
toute
hein?
la journée.
Il va y en avoir une combien de kiosques?
52 partenaires des entreprises privées et communautaires ont accepté oui. Notre invitation.
Ah, bien.
De venir tenir des kiosques sur les services et les activités qu'ils offrent, mais tous en lien avec la clientèle aidante.
D'accord, d'accord.
Alors ça, ça va être disponible de l'ouverture des portes le matin jusqu'à 15 heures l'après-midi, de pouvoir visiter les
d'accord.
kiosques. Vous me parliez des conférences. Bien, la deuxième que nous avons, là, c'est, elle va être aux alentours de 14h15. Mm-hmm. Et c'est donné par l'association Lavalloise pour le transport adapté. Ça va être sur les démarches d'admission au transport adapté de Laval.
D'accord.
Et la toute dernière conférence de la journée, mais non la moindre, c'est la conférence du docteur Sonia Lupien, qui a pour titre « Stress et mémoire ». Alors, cette conférence-là vient nous parler un petit peu de certains stress qui augmentent la mémoire, comment optimiser nos performances, savoir reconnaître nos moments de faiblesse face au stress également,
oui.
de prendre des moyens pour les gérer, etc.
Ah, bref, c'est super.
Ça aurait fait du bien que j'ai cette conférence-là avant mon entrevue, puis je me sens un petit peu stressée, sincèrement.
Pourtant, vous avez bien fait ça,
oui,
Nancy Goulet. Vous avez vraiment très bien fait ça. Vous nous avez donné envie de nous présenter absolument à Laval. Mais oui, mais oui, mais oui.
J'espère de vous y rencontrer fortement.
Alors, c'est au Palace de Laval, le lundi 7 novembre, à partir de 9h, donc pour l'accueil, si vous voulez ne pas manquer l'allocution de la ministre, l'honorable Madame Charbonneau, à 9h30. Et puis, donc, c'est toute la journée. Alors, conférence, atelier. Il y aura même un atelier de yoga, dîner, tout ça. Alors, et vous pourrez y rencontrer certainement l'adorable Nancy Goulet, avec qui je m'entretenais à l'instant. Voilà.
Merci beaucoup.
Je vous en prie et je vous souhaite un bel événement. Malheureusement, comme c'est un lundi, le devoir m'impose, c'est ça. Mais sinon, je me serais déplacée avec grand plaisir,
merci
vraiment.
Merci beaucoup, vous êtes aimable.
Mais je vous en prie. Et on va mettre votre numéro sur notre site.
Excellent,
voilà.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir, Madame Goulet. Cinq choses que les parents d'enfants ayant une déficience intellectuelle entendent le plus souvent et rêveraient d'ailleurs de ne plus entendre. Joanne Carrière est la présidente de l'Association pour l'intégration communautaire de l'Outaouais, l'APICO. Mais c'est surtout la maman de Guy. Guy, il a 36 ans. Et elle a livré un témoignage plein d'émotions à Jade Monpetit, qui est une journaliste en Outaouais, sur ce que cela signifie de vieillir quand on est la mère d'une personne atteinte d'une déficience intellectuelle, mais aussi sur les préjugés auxquels elle fait le plus souvent face. On suggère que cela s'est passé là, la déficience intellectuelle, raconte-t-elle en ce qui concerne son enfant Guy. C'est au moment de l'accouchement, il a manqué d'air au cerveau. Et comme maman, je peux vous dire qu'on se sent coupable. On pense que c'est notre faute, qu'on n'a pas fait ce qu'il faut, comme il faut, quand on était enceinte. Alors c'est donc comme ça qu'elle explique le problème de son enfant Guy. Elle dit « Une des conséquences de l'état de mon fils, c'est qu'il ne parle pas. Il a aussi fallu apprendre à vivre avec le regard des autres et des regards parfois réprobateurs. » Il y en a sûrement à qui ça va sonner bien des cloches, tout ce qu'elle peut entendre, cette femme, sur son enfant de 36 ans. Les personnes ayant une déficience intellectuelle devraient être placées dans des emplois où elles n'échoueront pas. Elle dit, Joanne, offrir une éducation à Guy ne fut pas facile. Elle tenait à ce que son fils aille dans le système scolaire ordinaire, mais selon elle, tous les services offerts aujourd'hui n'existaient pas à l'époque. La déficience intellectuelle est une maladie mentale. Elle dit, c'est toujours un problème. Les gens doivent faire la distinction entre une déficience intellectuelle et un problème de santé mentale. Une déficience intellectuelle n'est pas une maladie, c'est un état. Elle n'en peut plus non plus qu'on lui dise « comment tu fais ? Il ne sera jamais normal. » Ou encore, les personnes ayant une déficience intellectuelle resteront toujours des enfants. Et surtout, tu es courageuse, moi je ne serai pas capable. Souvenez-vous, hier avec Audrey Barbeau, qui voyage en fauteuil roulant, elle disait exactement la même chose. « Ne me parlez plus de courage. » Alors voilà pour ce papier qui nous venait de l'Outaouais. Et puis rapidement, je voudrais attirer votre attention sur une famille de Sainte-Lucie de Beauregard dans Montmagny-Sud qui souhaite obtenir l'appui de la population afin de l'aider à se procurer une chambre hyperbare pour leur fils qui souffre d'un trouble neurologique important. Ce petit bonhomme, il a 5 ans, il souffre de dysphasie verbale sévère et ils ont déjà fait le test, ils ont loué une chambre hyperbare et ils ont vu une différence absolument incroyable. Le problème, c'est que ça vaut, oui, 22 000 $. Si vous habitez la région ou pas d'ailleurs, si vous avez envie d'envoyer un petit peu de sous à cette famille-là, là encore, on va mettre toutes les informations sur notre site sous la rubrique des par actualités. Mais sachez en tout cas que vous pouvez acheminer directement vos dons à l'organisme SOS Handicapé. Et il suffit simplement de mettre la mention « pour Noah » en bas de votre chèque. Vous recevrez un reçu aux fins d'impôt. Sinon, vous pouvez envoyer directement un chèque à une adresse que je ne vous donnerai pas en onde, mais qui sera indiquée sur notre site Internet. Je vais maintenant parler avec Sarah Rouleau, qui est consultante en communication et philanthropie pour l'INCA, l'Institut national canadien pour les aveugles, au sujet du lancement d'un nouvel afficheur en braille qui s'appelle Orbit, qui sera maintenant disponible à la boutique de l'INCA. Bonjour, Madame Rouleau.
Bonjour.
Je suis très contente de vous parler. C'est une excellente nouvelle, ça, hein, cette Orbit, là, cet afficheur braille.
Oui, effectivement, c'est une très bonne nouvelle.
En fait, la bonne nouvelle, si vous me le permettez, parce que ça existait déjà, mais ça coûtait très cher, hein, c'est bien ça?
Oui, exactement. Donc, ce qui est le fun, c'est que c'est le premier afficheur braille à prix abordable.
Oui.
Donc, normalement, les afficheurs braille pouvaient coûter en moyenne 3 000 $, chiffre qui dépasse malheureusement la capacité de payer de bien des gens. Mm-hmm. Donc, le nouvel afficheur braille Orbit 20, lui, il va être offert seulement à 499 $, ce qui est vraiment une fraction du prix.
Oui, c'est déjà un prix, mais quand même.
Oui,
mais quand
ça
même,
donne accès à la lecture et à la littératie à plusieurs personnes qui ne pouvaient pas l'avoir avant. Là.
Ah, et il sera portatif, hein?
Oui, exactement. Donc, entre autres, un des avantages, oui, c'est qu'il soit portatif. Donc, il pèse moins d'une livre.
Oui.
Il entre dans le sac d'école ou dans une bourse.
OK.
Ensuite aussi, il y a une carte SD qui va pouvoir permettre de prendre ou de consulter,
okay,
des notes.
D'accord.
Sans avoir à être branché sur un ordinateur.
Et est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques?
Oui, bien en fait, l'afficheur Braille Orbit 20, 20 parce qu'il a 20 cellules Braille à 8 points. Donc, c'est possible de lire 20 cellules à la fois.
OK. Donc,
pour ceux qui ne savent pas, en fait, là, un afficheur Braille, la fonction, c'est de lire pour les personnes qui vivent avec une perte de vision. C'est de lire ce qui est écrit, par exemple, sur l'ordinateur. Donc, texte s'affiche une ligne à la fois en braille. Donc, au lieu d'utiliser l'écran et tout, il lit sur la plage. Et nous, c'est ça. Il y a 20 cellules braille et c'est des brailles à 8 points. Donc, c'est possible d'utiliser, par exemple, le souligné, le gras, l'italique.
D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques?
Oui, mais en fait... sur l'ordinateur, il peut se brancher soit par par port USB,
oui,
ou par Bluetooth.
D'accord.
C'est intéressant.
Ah
aussi.
Oui, ben oui, je comprends. Pas,
oui,
de fil dans les pattes, tout ça.
Oui. Et on a parlé de l'écriture, mais on a parlé de la lecture, là, les 20 cellules, mais pour l'écriture, c'est 8 touches d'entrée en braille. Donc ça a les mêmes avantages que je disais tout à l'heure. Il est en français et en anglais, puis il lit les formats texte, le BRL, BRF, texte et PEF. Donc, pour ceux qui sont habitués,
oui, c'est
vont être heureux de pouvoir utiliser tous ces formats-là.
Vous le diffusez comment? Vous la diffusez comment, cette information-là, en ce moment?
Oui, bien nous, en fait, on est très heureux. Donc, on en a parlé sur nos médias sociaux,
oui,
on en a parlé dans nos infolettes, on en,
oui,
a parlé dans les organismes qui qui travaille avec des personnes qui vivent avec une perte de vision.
Mm-hmm.
On en parle à vous dans les médias
Mais
parce
oui.
que c'est sûr que c'est vraiment pour la clientèle.
Bien sûr.
C'est pas intéressant pour le grand public, mais pour la clientèle, c'est vraiment
oui.
Une très bonne nouvelle.
Et dites-moi, parce qu'on se demande avec toutes ces caractéristiques-là, on se demande comment vous avez pu réaliser une telle baisse du prix finalement?
Oui, ben en fait c'était ça le but. Donc
oui.
INCA s'est joint à une dizaine d'organisations à travers le monde, dont l'Angleterre, Nouvelle-Zélande, Australie,
oui.
États-Unis. Et le but c'était vraiment de développer une nouvelle technologie braille qui soit accessible au plus grand nombre. Donc justement de permettre de le rendre plus abordable.
D'accord.
INCA a entre autres aidé là, à financer la recherche et le développement, apporter son expertise. Ils ont fait des essais techniques, des tests et tout. Et notamment, là, il y a une nouvelle technologie dans la cellule braille qui permet de l'offrir là, à une fraction du prix. Donc, c'était
oui.
le défi, puis on en est très fiers.
Ben oui, j'imagine. Bravo. Bravo. Ça doit représenter plusieurs années de recherche, tout ça, hein, pour mettre ça au point.
Oui, ben ça, c'est un gros projet.
Oui.
Mais c'est ça, c'était important pour nous parce que, oui, il y a la synthèse vocale,
oui.
Mais le braille est très...
Ou l'audio, ou évidemment l'audio, hein, surtout
oui,
à l'INCA aussi,
hein,
vous en faites, bien sûr.
Tout. Donc, ça, c'est des bonnes avancées technologiques. Puis sauf qu'il ne faut pas oublier que le braille est important pour l'alphabétisation et
oui.
l'éducation. Donc,
oui,
ça permet
exact.
Vraiment de connaître l'épellation, la
oui,
grammaire,
oui, oui, oui,
la
oui,
syntaxe
oui.
des phrases. Donc, c'était important pour nous là, de le rendre accessible, justement.
Bon. Alors, accessible comment, justement? On se le procure où?
Oui, donc... au Canada, c'est la boutique INCA est le fournisseur exclusif.
Ah bon? OK.
Donc, il faut nous contacter pour
D'accord.
pouvoir avoir accès à l'afficheur Braille Orbit. Alors, le numéro de téléphone de la boutique, c'est le 1-866-659-1843.
D'accord. Et on va le mettre sur notre site
Ben
Internet
oui,
aussi,
mais
bien
oui,
sûr.
Ça, c'est gentil.
Voilà.
Puis c'est ça, les premiers là, afficheurs braille devraient arriver début décembre, mais c'est possible dès maintenant de le précommander là, pour s'assurer là, d'avoir ce nouveau produit-là.
D'accord. Très, très rapidement, si on s'en va sur votre site www.inca.ca, on peut aussi vous le commander ou
oui.
pas? Très
oui.
bien.
Oui, donc vous pouvez aller sur inca.ca. Notre boutique, en ce moment, est seulement en anglais, mais on a
D'accord.
notre boutique en ligne, mais c'est possible là, de
D'accord.
commander.
Eh bien, écoutez, je pense qu'on a toutes les informations, Mme Rouleau, et je vous en remercie beaucoup. Je vous rappelle qu'avec Mme Rouleau, je m'entretenais au sujet du lancement de ce nouvel afficheur braille qui s'appelle Orbit, disponible à la boutique de l'INCA. Toutes les infos seront relayées par le site de Canal M à canalm.visezvoix.com. Mme Rouleau, je vous souhaite une belle journée.
Bien, merci, vous aussi.
Et au plaisir de vous reparler sur les ondes.
Au plaisir.
Au revoir. Actualité nationale maintenant, la campagne « Toi pour elle » de... Et ah oui, et tantôt tu me l'as dit, hein, mon ami Jean-Sébastien, qu'il fallait que je dise ça plutôt en anglais, puis j'arrive pas à le retenir. Alors, YWCA, YWCA. Pourquoi WCA? Voilà, YWCA. Alors donc, le « Toi pour elle » de YWCA Canada qui lance aujourd'hui un mémoire qui s'intitule « Tenir compte des femmes et des filles dans une stratégie nationale sur le logement » et demande que la stratégie nationale sur le logement améliore l'accès aux logements abordables et sécuritaires pour les femmes ainsi que les programmes et les services abordant l'itinérance des femmes et des filles soumis aux consultations sur la stratégie nationale sur le logement du gouvernement fédéral. Le mémoire poursuit le travail de la campagne de YWCA Canada, « Toi pour elle », qui cherche à prévenir, réduire et décidément mettre fin à l'itinérance des femmes et des filles au Canada. Nous avons la preuve que l'intégration d'une perspective genrée est essentielle pour répondre aux besoins des femmes et des filles pour un logement sécuritaire et abordable à travers le pays. Les filles et les femmes qui ont vécu l'itinérance nous informent ce qu'elles ressentent quand elles se font laisser de côté, dit Shelley Yeo, présidente de Toutes nos sœurs. Il est temps d'écouter, d'apprendre et de profiter de cette occasion pour trouver des solutions à l'itinérance, pour que chaque enfant et leur mère est un chez-soi. Investir dans des foyers, c'est investir dans les générations à venir. SOS Fantôme, un papa, et ça se passe en Belgique, me semble-t-il, un papa a transformé le fauteuil roulant de son fils en Ecto One, j'imagine, c'est la voiture de Ghostbusters, si mes souvenirs sont bons. Ben voilà, justement, on nous le dit ici, la cultissime voiture de Ghostbusters, et j'ai vu la photo, et c'est vraiment très très chouette. Et il y a un autre papa qui a fait qui a transformé la voiture de son fils en voiture de Superman. Et le petit garçon, il est dans la voiture et derrière, il a fabriqué un corps. Alors, on a l'impression que le petit garçon vole sur sa machine. C'est vraiment super. Mais oui, pourquoi pas, hein? Ayons des idées pour nos enfants alors que Halloween approche à grands pas. En rafale aujourd'hui, le gouvernement du Canada, vous savez, consulte actuellement la population en vue d'élaborer une loi canadienne sur l'accessibilité. C'est pourquoi le RAM vous invite à une rencontre d'information qui permettra de mieux comprendre ce que peut changer dans notre vie cette loi fédérale dont nous parlons beaucoup sur Canal M, et c'est normal. Alors, le RAM et cette consultation et cette réunion d'information est organisé par le RAM le jeudi 27 octobre, autrement dit demain, de 18h30 à 20h45, au 5225 rue Berry, local 100 à Montréal. Ça, c'est tout à côté du métro Laurier. C'est gratuit. Cette présentation conviviale et interactive sera animée par Laurent Trépanier-Capistran, un juriste progressiste et agent de défense des droits chez Execo. Elle permettra aux personnes de s'initier à l'importance d'une loi fédérale versus une loi provinciale, clarifier les compétences du gouvernement fédéral qui peuvent influer dans nos vies et s'outiller en vue de la consultation. Pour en savoir plus encore, je vous invite à aller sur le site, notamment pour vous inscrire, le site du RAM, et peut-être aussi à vous donner cette adresse Internet que nous allons également relayer sur notre site, soit cbr@ram avec 2a et 2m.org. Juste quelques mots pour vous dire qu'il y aura déménagement à la direction des programmes DI, TSA et DP, la déficience intellectuelle, trouble du spectre de l'autisme et déficience physique. Aujourd'hui, le 26, le Centre intégré de santé et de services sociaux, le CIS de Laval, procédera au déménagement de plusieurs services qui vont se retrouver à l'adresse suivante. 304 boulevard Cartier Ouest au troisième étage. 304 boulevard Cartier Ouest au troisième étage. C'était les Par Actualité. Passez une belle journée, à demain.